Tout de suite, le journal. Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Les dirigeants des pays de l'OTAN sont réunis depuis ce matin au sommet à Londres pour célébrer le 70e anniversaire de l'Alliance. En revanche, on ne compte plus les différends qui risquent de gâcher la fête, sinon de ruiner carrément l'unité de l'Alliance.
L'année 2019 conclut une décennie de chaleur exceptionnelle.
Et voilà la nouvelle alerte de la science lancée ce matin en pleine COP25 à Madrid. Après que Washington a menacé hier de surtaxer lourdement une série de produits français en réponse à l'instauration par Paris d'une taxe sur les géants du numérique, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a jugé ce matin inacceptable les menaces américaines et d'y espérer une riposte forte de toute l'Union européenne. Enfin, le dossier de la rédaction, comme chaque mardi, aujourd'hui nous nous intéresserons à la notion de propriété privée et nous demanderons notamment si la conception que nous en avons depuis la Révolution française doit ou non évoluer. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Réenchanter la politique, comment faire? On va en parler après un lourd constat, celui de l'écrivaine Adeline Baldacchino, ensemble, et essayer de comprendre comment poésie et politique, magie et politique sont loin d'être incompatibles. Au contraire, réenchanter la vision de la politique pourrait peut-être permettre d'agir mieux sur le réel.
Merci et à tout à l'heure. On a connu un anniversaire plus joyeux alors que les 29 représentants de l'OTAN se retrouvent à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain à Londres pour célébrer le 70e anniversaire de l'Alliance. Le 27e sommet de la plus puissante coalition militaire mondiale sera surtout en réalité l'occasion de régler quelques comptes. Le plus virulent de ces différends opposera sans doute Emmanuel Macron à son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, après que le chef de l'État français, fort de son image de président jeune et audacieux, a choisi de dresser il y a déjà quelques jours le procès public de l'Alliance Atlantique. Les deux dirigeants sont arrivés à échanger des insultes. Le sultan d'Ankara allant même jusqu'à juger lui-même Emmanuel Macron en état de mort cérébrale. De son côté, la Turquie devra répondre à l'embarras des alliés après son offensive militaire en Syrie. Enfin, l'autre inconnu sera le comportement de Donald Trump. Le président américain n'a qu'un seul sujet de discussion à la bouche, celui du financement des dépenses militaires de l'OTAN, que le chef de la Maison-Blanche a d'ailleurs déjà décrit comme obsolète. Alors, on se souvient que dans les années 60, un certain général de Gaulle avait déjà posé la question avec fracas, à quoi sert encore l'OTAN? Et force est de constater que cette interrogation se pose donc encore aujourd'hui dans les mêmes termes, avec même cette ambiguïté supplémentaire qu'entre le comportement erratique donc de la Turquie d'un côté et le fossé transatlantique de l'autre. Eh bien, on a parfois du mal à comprendre si les membres de l'OTAN sont toujours de véritables alliés ou d'irréductibles adversaires. Les précisions de notre envoyé spécial à Londres, Bertrand Galichet.
Ce premier rendez-vous de la journée promet d'être tendu après les déclarations virulentes de Donald Trump, qualifiant de très insultant le diagnostic de mort cérébrale porté par Emmanuel Macron sur l'OTAN, un jugement très méchant à l'adresse de 28 pays, a dit ici le président américain lors d'une rencontre avec le secrétaire général de l'organisation, Jens Stoltenberg. Donald Trump, qui se dit très surpris, va en parler cet après-midi à son homologue français lors de leur entretien ici à Londres, à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis. Le dirigeant américain ajoute que la France a particulièrement besoin de l'OTAN. Ambiance garantie donc entre les deux hommes qui avaient affiché une complicité de façade à Biarritz lors du G7 à la fin de l'été. Sur le fond, Emmanuel Macron assume totalement son analyse et presse les autres partenaires de l'OTAN de revoir le fonctionnement politique de l'organisation. Les mots employés par le chef de l'État ont choqué beaucoup d'entre eux, mais certains partagent le point de vue alarmant de la France, tandis que la seule préoccupation martelée jusqu'à présent par Donald Trump porte sur le budget de l'organisation et la part de financement des Européens. Emmanuel Macron rencontrera ensuite avec Angela Merkel et Boris Johnson le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a tenu la semaine dernière des propos à l'encontre du président français jugés insultants par l'Élysée.
Voilà, et tandis qu'à Londres, donc, les partenaires de l'OTAN européens en tête tentent de sauver, donc, ce qui peut encore l'être de leur assurance vie aussi indispensable que coûteuse à Madrid. Là-bas, les exhortations à agir pour sauver, cette fois-ci, l'humanité tout entière des assauts du dérèglement climatique se multiplient depuis l'ouverture hier de la COP25. Il faut dire que depuis un an, tout particulièrement, les pays signataires de l'accord de Paris sont la cible d'une pression sans précédent. désobéissance civile de citoyens, défilés de jeunes par millions, sans oublier les rapports alarmants des scientifiques. Et à ce titre, l'étude de l'Organisation météorologique mondiale publiée ce matin se révèle une fois de plus édifiante. On y apprend que l'année qui s'achève avec son lot d'incendies, de sécheresses, de canicules et d'ouragans s'inscrira parmi les trois années les plus chaudes jamais enregistrées depuis 1850, c'est-à-dire depuis qu'ont débuté les relevés systématiques de température. Mais pire encore, 2019 vient conclure une décennie de chaleur exceptionnelle. Les précisions de notre envoyée spéciale à Madrid, Véronique Robérotte.
À un mois près, puisque 2019 n'est pas terminé et les relevés ne sont donc pas complets pour cette année. Mais pour Omar Badour, coordinateur de ce rapport pour l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, le monde s'installe durablement dans un réchauffement continu sans inversion de tendance.
La décennie actuelle est la décennie la plus chaude depuis l'enregistrement des valeurs des températures depuis 1850. On est sur la tendance du réchauffement continu. Les phénomènes météorologiques sont liés au climat d'une manière générale. Donc, si le climat se réchauffe, on a tendance à voir des extrêmes. Les vagues de chaleur en priorité, puis les sécheresses, les inondations. On a noté qu'il y avait des inondations également dans pas mal de pays, y compris en France et sur l'Espagne, qui ont engendré des morts. Donc, il y a une relation étroite entre ce qui se passe sur le plan variabilité climatique et changement climatique et la fréquence et l'intensité des extrêmes.
Ces phénomènes extrêmes, cyclones, inondations, sécheresses, acidification et asphyxie des océans, etc., tous décrits sans exception en hausse dans ce rapport. Ces phénomènes ont déjà des conséquences très graves sur la sécurité alimentaire et les migrations, insiste le rapport de l'OMM. Depuis 2018, la faim est de nouveau en hausse dans le monde avec plus de 820 millions de personnes qui en ont souffert. Et puis le nombre de nouveaux déplacements liés à des phénomènes météorologiques extrêmes pourrait plus que tripler pour atteindre environ 22 millions de personnes à la fin de 2019, relève l'Organisation météorologique mondiale.
Cheminots, enseignants, étudiants, policiers, éboueurs, postiers, avocats, mais aussi syndicats, partis d'opposition, sans oublier les gilets jaunes, tous appellent, vous le savez, à faire grève et à manifester jeudi contre la future réforme des retraites. Le mouvement s'annonce notamment particulièrement suivi dans les transports et pourrait même durer plusieurs jours en raison de l'appel à une grève illimitée à la SNCF comme à la RATP. Et c'est ainsi qu'anticipant un mouvement long dans un contexte social qui plus est tendu, l'exécutif enchaîne les réunions ces derniers jours. La semaine dernière, déjà, le Premier ministre avait laissé une porte ouverte à une entrée en vigueur de la réforme après 2025. Hier, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est lui prononcé pour une revalorisation du salaire des enseignants, dont près de 7 sur 10 devraient être en grève après-demain. Pour autant, la fermeté reste de mise. Quand Emmanuel Macron prévient « je n'y renoncerai pas », Édouard Philippe se dit de son côté plus déterminé que jamais. Alors pendant que l'exécutif recherche toutes les pistes possibles pour faire des économies dans les retraites complémentaires, le gouvernement s'efforce par ailleurs d'alléger la pression financière sur les hôpitaux. Or c'est aujourd'hui que le Parlement doit adopter définitivement le projet de budget de la Sécu pour 2020, objet toujours de vives critiques de l'opposition, notamment sur la situation justement des hôpitaux, et ce malgré la rallonge décidée par le gouvernement. Ce projet de loi devrait avoir l'aval des députés LREM et du MoDem ainsi qu'une partie des UDI. Agir, en revanche, les Républicains, tout comme les trois groupes de gauche, Parti Socialiste, Parti Communiste et France Insoumise, devraient tous voter contre ou s'abstenir. Ils étaient pas moins de 140 militaires de la gendarmerie mobilisés ce matin à Verne-sur-Sèche, dans la banlieue de Rennes, pour débloquer les accès aux dépôts pétroliers. Celui de La Palisse, près de La Rochelle, est également en train d'être débloqué en ce moment même. En revanche, à Brest, Lorient, Le Mans, là-bas, les sites restent toujours bloqués par les professionnels du bâtiment, lesquels, je vous le rappelle, espèrent toujours faire changer d'avis le gouvernement qui souhaite mettre fin à l'avantage fiscal dont il bénéficie sur le gazole non routier. Hier, une délégation a été reçue à Bercy. Des avancées ont été obtenues sur plusieurs de leurs revendications, mais pas sur un nouveau délai concernant la suppression donc de cet avantage fiscal sur le GNR. Je précise par ailleurs que près de 500 stations-service sont en rupture totale de carburant et environ 70 en rupture partielle, essentiellement dans l'ouest de la France. Tous les trois ans, les résultats du PISA, le programme international pour le suivi des acquis des élèves de l'OCDE, sont attentivement scrutés et commentés tant par les médias du monde entier que les acteurs de l'école comme les décideurs politiques. Et c'est donc encore le cas ce matin. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors 20 ans après son lancement, rappelons que l'évaluation internationale en éducation la plus connue concerne aujourd'hui 79 pays, dont elle compare donc le niveau des élèves de 15 ans en sciences, en mathématiques et en compréhension de l'écrit. Et comme dans sa dernière étude, eh bien c'est l'Asie, la Chine et Singapour en l'occurrence qui caracole en tête. La France, elle reste dans la moyenne, mais derrière l'Estonie et surtout Hakim Kasmi, sans parvenir donc à réduire le poids de l'origine sociale sur la réussite des élèves.
Oui, si la France se stabilise avec des résultats honorables entre la 15e et la 20e position, en revanche, les inégalités persistent. La France fait partie des pays où elles sont le plus nombreuses. Rien qu'au test, par exemple, Thomas, il faut savoir que les élèves les plus en difficulté ont eu 5 fois plus de mal à répondre aux tests de lecture, d'écriture, de mathématiques et de culture scientifique. Un constat que reconnaît Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, qui indique que cela évoluera, mais une fois que les politiques en cours, eh bien, porteront leurs fruits, mais pas avant une dizaine d'années. C'est par exemple la réforme du collège avec devoir mais aussi les dédoublements en CP et en CE1. Jean-Michel Blanquer.
Aujourd'hui, j'ai beaucoup insisté sur les premiers bilans que l'on peut faire de notre dispositif devoir fait, qui concerne environ 20% de nos élèves aujourd'hui dans les collèges, qui doit en concerner davantage dans le futur, et qui a un intérêt qualitatif, parce que l'on voit qu'au travers de devoir fait, on accomplit quelque chose qui, justement, est un des enseignements de PISA, c'est-à-dire personnaliser davantage le rapport entre le professeur et l'élève. Les élèves français demandent à être plus aidés personnellement, parce qu'il n'est pas normal qu'à la fin du collège, on ait encore des élèves si fragiles pour 20 ou 30% d'entre eux en matière de lecture, d'écriture et de calcul.
Une étude PISA qui montre également que les élèves français se disent à 50% dérangés par les bruits en classe, ce qui pose des problèmes de concentration et de discipline. Des élèves aussi qui disent être pas assez accompagnés par leurs enseignants.
Merci Hakim Kasmi. C'était l'été dernier, après l'adoption définitive en France de la taxe dite GAFA sur les géants américains du numérique. Donald Trump était lui-même monté au créneau sur ce dossier en dénonçant, je cite, « la stupidité du président Emmanuel Macron ». Autant dire que la menace adressée hier par Washington d'imposer des droits de douane additionnels à certains produits français n'aura guère surpris. Pas de quoi pour autant intimider la France qui, par la voix de son ministre de l'économie Bruno Le Maire, non seulement déplore ce matin des menaces inacceptables et précise que Paris ne reculera pas. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
La France conteste aujourd'hui, Anne-Laure, les arguments donc invoqués par Washington pour imposer de telles représailles.
Oui, alors on les rappelle, hein, ceux invoqués par le représentant américain au commerce. Il dit que ces sanctions sont la réponse à un protectionnisme croissant des pays de l'Union européenne qui cible injustement les entreprises américaines. Les surtaxes annoncées par Washington pèseraient à hauteur de près de 2,5 milliards de dollars sur les produits français. Et s'il ne s'agit encore que d'une proposition qui doit être validée par Donald Trump, le président américain a déjà fait savoir qu'il ne laisserait pas la France tirer parti des entreprises américaines. La réponse de Bruno Le Maire n'a effectivement pas tardé ce matin. Selon lui, la taxe française n'est pas discriminatoire.
La taxe française sur les activités numériques couvre toutes les grandes entreprises du numérique. Elle comprend des entreprises américaines, mais elle comprend aussi des entreprises françaises, des entreprises européennes et des entreprises chinoises. Mais les États-Unis doivent savoir que s'ils s'engageaient dans un nouveau train de sanctions contre la France, l'Union européenne serait prête à réagir. Et prête à réagir fortement.
La Commission européenne qui vient d'ailleurs effectivement d'indiquer qu'elle resterait unie face aux menaces de sanctions américaines. Sanctions qui, si elles sont confirmées, n'entreront pas en vigueur avant 30 jours. Alors parmi les produits concernés, on trouve le savon, le maquillage, les sacs à main et côté alimentaire, le fromage, notamment le roquefort, les yaourts ou encore les vins pétillants. Du côté des agriculteurs français, on se sent pris en otage. D'autant que le vin français est déjà sous le coup de représailles américaines dans un autre litige. La coupe est pleine, selon Jérôme Despet, vice-président de la FNSEA, en charge de la viticulture. Il répond à Anne-Laure Chouin.
On ne peut pas, le secteur agricole, avoir donc des sanctions dont on n'est pas à l'origine sur le plan donc commercial, que ce soit sur le numérique avec le GAFA, que ce soit sur l'aéronautique. Il nous faut donc privilégier la voie de la négociation pour faire cesser ces sanctions, avoir des compensations, des mesures de promotion pour réorienter le marché vers donc d'autres pays et avoir des réponses le plus rapidement possible de l'Union européenne et du gouvernement.
Et puis côté français, on pousse les États-Unis à faire avancer la législation au plan mondial. Si le projet négocié à l'OCDE sur la taxation des géants du numérique va à son terme, le gouvernement retirera, comme il s'y est toujours engagé, sa taxe Made in France.
Merci Anne-Laure Jumet. Puis j'ajoute qu'hier, Donald Trump a également annoncé que les États-Unis allaient imposer des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium en provenance du Brésil et de l'Argentine, prenant ainsi par surprise l'un de ses principaux alliés, le président d'extrême droite. Jair Bolsonaro, le chef de la Maison-Blanche, a justifié sa décision par le besoin de riposter à la dévaluation des monnaies de ces pays, faisant fi de la crise économique que traverse actuellement l'Argentine. En Russie, une nouvelle loi signée hier par le président Vladimir Poutine autorise désormais le gouvernement à désigner les journalistes russes comme agents de l'étranger. Concrètement, ce texte doit s'appliquer à tout professionnel des médias, blogueur ou utilisateur des réseaux sociaux qui diffuse de l'information reçoit de l'argent de sources étrangères. Un bon moyen, en somme, pour le Kremlin de continuer à mettre la pression sur les militants politiques les plus actifs, comprenez, les plus critiques du pouvoir. Les explications de notre correspondant Claude Brouillot.
Voilà 7 ans maintenant que le concept d'agent de l'étranger est réapparu dans la législation russe. À l'origine, le Kremlin souhaitait que soient identifiées toutes les entités associatives bénéficiaires de financements venus de l'extérieur du pays. Cet outil législatif s'appuie sur un panel de contrôle administratif auquel correspondent autant de sanctions pouvant aller jusqu'à l'interdiction de fonctionner en cas de manquement. Et c'est évidemment un moyen de pression sur toutes les structures qui critiquent le pouvoir et les autorités russes, au premier rang desquelles les mouvements d'opposition et leurs ramifications dans la société civile. 2017 a marqué l'extension de ces mesures aux médias étrangers, à l'image de Radio Free Europe par exemple, et dans la suite logique donc, les textes promulgués hier par le Kremlin incluent désormais des individus, journalistes freelance, mais aussi internautes ou encore blogueurs, qui tirent une partie de leurs subsides de structures en lien avec l'étranger. En clair, la démarche du Kremlin aujourd'hui vise à faire en sorte que plus personne désormais ne passe entre les mailles du filet.
Au Chili, le gouvernement a mis hier 5,5 milliards de dollars sur la table pour tenter de résoudre la crise sociale sans précédent qui agite le pays. L'annonce est intervenue le jour même où la banque centrale chilienne annonçait un fort repli de 3,4% de l'activité économique, soit la pire performance depuis celle enregistrée il y a 10 ans, au plus fort de la crise financière internationale. Enfin, au Venezuela, des soupçons de corruption sont venus affaiblir un peu plus encore la stratégie du chef de file de l'opposition pour évincer le président élu Nicolas Maduro. 9 députés, soutiens de Juan Guaido, sont soupçonnés d'être intervenus auprès des autorités de Bogota et Washington pour leur demander de se montrer indulgentes envers un chef d'entreprise colombien. Comme tous les mardis, à présent, le dossier de la rédaction. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la notion de propriété privée. Avec cette question, la conception que nous en avons depuis la Révolution française doit-elle évoluer? Voilà peu ou prou résumé donc ce qui fait débat aujourd'hui dans un contexte à la fois de crise environnementale, mais aussi d'accroissement des inégalités. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Alors, la semaine dernière, à Paris, Yann Brossa, élu communiste à la mairie de Paris, annonçait la création d'un office foncier solidaire. Le dispositif a été créé par la loi Allure sur le logement, c'était en 2014, pour enrayer une forme d'inégalité avec une nouvelle manière d'accéder à la propriété immobilière. En clair, parce que ce qui coûte le plus cher aujourd'hui dans l'achat d'un logement, ce ne sont pas les murs, mais le terrain où il se trouve, c'est-à-dire le foncier. L'idée, eh bien, c'est de dissocier les deux. Concrètement, quand l'acheteur acquiert son appartement, eh bien, il loue en revanche le sol à une nouvelle structure non lucrative qui en est propriétaire. Et c'est donc à Lille, Catherine, que le premier organisme de ce type a été lancé, c'était il y a 4 ans.
Oui, et c'est une manière de lutter contre la spéculation immobilière et de permettre aux familles de rester en centre-ville, car n'acheter que les murs, c'est diviser pratiquement par 2 le prix d'achat. C'est comme ça qu'Elisabeth Aubert et son compagnon ont pu acheter un appartement en plein cœur de la ville.
En fait, c'est vraiment une nouvelle manière d'envisager la propriété, très clairement. C'est aussi quelque chose qui nous a convaincus, cette idée de participer à quelque chose d'innovant, qui réinvente l'idée de la propriété, les manières d'habiter. Malgré tout, il y a quand même l'idée d'avoir un endroit qu'on puisse investir comme on en a envie, c'est-à-dire s'installer, faire des travaux. Actuellement, on vit dans un appartement très ancien, mal entretenu par le propriétaire actuel. Voilà, c'est quelque chose qui fâche aussi de se dire qu'on n'a pas trop la main, en fait, sur des travaux qui seraient vraiment nécessaires pour maintenir en l'état un bâtiment qui, au départ, est super chouette, quoi. Donc là, ça nous donne plus de responsabilités, mais aussi plus d'initiatives. C'est-à-dire que on va être propriétaire un temps, Et quand on revendra le bien, on devra le revendre au prix auquel on l'a acheté. Et donc, l'idée, c'est pas de faire de la propriété une source de plus-value majeure. Voilà, c'est de dire peut-être que d'avoir un toit, c'est un droit et qu'on a là accès à quelque chose qui sera transmis après à d'autres. Et donc, c'est une manière de retrouver la fonction première, en fait, des habitations.
Des initiatives de ce type, institutionnelles ou citoyennes, se multiplient et certaines vont jusqu'à définir des règles communes de gouvernance des biens. C'est le cas dans le Morvan, où depuis 2013, des citoyens se sont associés au sein d'un groupement forestier. Ils achètent ensemble et conçoivent en commun une forme d'exploitation de forêt. Leur objectif, c'est de défendre la diversité des espèces contre une monoculture intensive de sapins aux effets négatifs en termes paysagers comme de biodiversité. Pour 160 euros, il est possible d'être propriétaire d'un bout de forêt. Écoutez Jacques Grolier, l'un des co-gérants du groupement forestier.
C'est une propriété commune, alors on présente toujours les choses comme ça dans votre association, en disant vous êtes propriétaire de l'ensemble. D'une part, on sait que ça représente à peu près une surface de 1500-2000 m², mais qui n'est pas localisée. Nos associés peuvent aller se promener sur l'ensemble de nos forêts, qui sont sur les 4 départements de la Bourgogne. Récemment, vous avez été appelé par une petite commune où les habitants en ont marre qu'on saccage complètement leur forêt, se retrouvent avec un grand désert autour de chez eux. Donc on a fait une réunion publique et les habitants de la commune se sont mobilisés, ont acheté des parts du groupement et nous avons pu acheter une dizaine d'hectares pour le protéger. Si on la protège pas, il y a un particulier qui va l'acheter, enfin souvent ce sont des sociétés, hein, qui va couper tout à blanc, replanter un résineux, qui va revendre ou qui va gérer intensément. Là, le fait d'avoir ce groupement permet d'avoir une action concrète qui met en valeur toutes les fonctions de la forêt.
Alors, il existe en réalité des expériences similaires, Catherine, dans des domaines extrêmement variés. On citera pêle-mêle l'habitat, les terrains agricoles, les semences, mais aussi les logiciels libres ou bien encore la connaissance. Faut-il y voir là la main des opposants à la propriété privée ?
Plutôt le signe d'une réflexion renouvelée sur sa définition. D'ailleurs, les deux exemples que nous avons évoqués montrent bien plusieurs choses. D'abord, que ces formes de propriété ne sont pas plus vertueuses, égalitaires ou écologiques en elles-mêmes, mais plutôt parce qu'elles s'accompagnent de règles, ici encadrer les prix ou poursuivre des objectifs de biodiversité. Ensuite, qu'elles peuvent être des outils efficaces de lutte contre les inégalités sociales et la crise environnementale. Surtout, on voit bien avec ces expériences qu'il ne s'agit pas tant de supprimer la propriété privée, mais d'en aménager les formes ou les limites, explique Judith Rochefeld, professeure de droit à Paris 1. Elle a notamment codirigé un dictionnaire des biens communs.
Il y a beaucoup, effectivement, de renouvellement. On voit beaucoup d'organisations d'une propriété qui soit plus collective ou pour préserver des ressources ou pour créer des ressources comme Wikipédia, où là, on refuse la propriété pour s'organiser collectivement en ouverture de cette connaissance à tous. Donc, on a des nouveaux agencements qui ne sont plus sur le modèle de la propriété totalement exclusive et absolue d'une seule personne. Cette idée du propriétaire très libre sur ses biens. Il faut garder cette liberté, mais on a des nouveaux montages pour avoir des usages plus collectifs, par exemple.
Alors bien sûr, cela reste encore peu fréquent. La propriété individuelle telle qu'elle existe depuis la Révolution est le modèle majoritaire et pour beaucoup, elle reste d'ailleurs à défendre comme la forme optimale car elle donnerait la meilleure productivité et garantirait la conservation des biens dans le temps. Souvenez-vous, il y a quelques mois, des débats autour de la loi Pacte, l'idée de soumettre les entreprises privées à des objectifs sociaux et environnementaux avait soulevé les oppositions à la fois du MEDEF et d'un certain nombre d'intellectuels et chercheurs. Plus récemment, l'ouvrage de l'économiste Thomas Piketty proposant entre autres choses des formes de propriété plus temporaire ou partagé, a fait l'objet de vives critiques.
Et puis si les formes de propriété, on le voit, font particulièrement débat aujourd'hui, Catherine, c'est aussi parce que la prise de conscience de la crise environnementale est passée par là.
Et l'une des questions en jeu, c'est l'épuisement des ressources, souligne l'historien de l'environnement Fabien Locher, auteur avec Frédéric Grabert de Posséder la nature.
La crise environnementale, elle pose la question de la dimension écologique des formes d'appropriation. Notamment, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de considérer que la propriété individuelle, exclusive, est la seule façon qu'on a de posséder des parties du monde, dans un certain sens. La propriété individuelle, exclusive et absolue, hein, selon laquelle le propriétaire est censé pouvoir faire ce qu'il veut de son bien. Qu'il s'agisse d'une forêt, d'un lac, ou de toute autre sorte de bout de nature, hein, parce qu'on est partie prenante de la biosphère, parce que les cycles écologiques n'ont que faire des clôtures et des divisions de la propriété privée. Et aussi se pose aujourd'hui de façon très aiguë hein, la question des inégalités dans nos sociétés et la question de la propriété, du patrimoine. Tout ça est au cœur hein, de ces dynamiques d'explosion des inégalités. Et ce qui est intéressant quand on est historien, c'est de voir que la forme de propriété qui nous paraît aujourd'hui la plus naturelle, entre guillemets, elle est en réalité exorbitante au regard de l'histoire. C'est le produit, évidemment, d'une série de transformations historiques. Il y a beaucoup de gens qui repensent ces questions-là. Il s'agit de décider collectivement des frontières exactes de cette propriété. Au fond, la propriété privée, c'est sans doute l'institution la plus puissante et la plus opaque de la modernité. C'est un enjeu démocratique de mettre cette question-là au cœur du débat.
Au moins fait-elle déjà l'objet de vifs désaccords dans les débats intellectuels, toile de fond d'une effervescence d'expériences institutionnelles, communales et citoyennes.
Merci Catherine Pétillon. On termine avec un mot du temps pour aujourd'hui, dominé par la grisaille, avec une humidité persistante, à l'exception des plages landaises vers les rives sud de la Loire, du massif central jusqu'aux frontières est du pays, où les nuages laisseront la place à de belles périodes ensoleillées. Quant aux températures, elles afficheront entre 4 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par Nicolas Paumet, et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.